bienvenue à tous dans cette première émission de Héritage, le podcast qui sera dédié à l'exposition qui porte le même nom Héritage et qui débutera le 28 février à l'ancienne bibliothèque des Chiroux. Et de quoi va parler cette exposition et ce podcast? Principalement de hip-hop, d'artistes, de disciplines autour de la culture hip-hop qui est née ici à Liège, dont on célèbre plutôt les 40 années d'existence. Et pour cette première émission en direct des studios de 48 FM, nous avons le plaisir d'être entourés de gens que vous connaissez déjà, qui assurent déjà la promotion de cette culture ici sur Liège, que ce soit avec 48 FM, Martha, qui est un peu la big boss ici de plein d'émissions qui ont mis à l'honneur cette culture, et aussi Régis qui anime New Wave qui est là. Ben d'abord je vous salue et
salut.
Comme j'ai l'honneur d'ouvrir cette première salve de podcast aujourd'hui, la thématique, parce que évidemment chaque semaine, chaque émission, je veux dire, qui va avoir lieu ici autour de cette exposition, on va traiter d'une thématique particulière. On va commencer par la thématique du beatmaking, donc de la composition et des compositeurs liégeois. Donc nos premiers invités pour cette émission sont Nico Grandbert, Nico Debaya, et un homme aussi célèbre derrière toutes sortes de bobs et de chapeaux qu'on connaît, c'est Auster, qui a aussi une carrière de rappeur. Eh bien bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Hello.
Hello.
Comment ça va?
Ça va super, à part que se garer c'est une galère ici, donc là, pour les prochains invités... Prévoyez quelques euros de parking.
C'est ça, et puis ouais. venir à cette émission aussi, c'est quand même un peu, comme pour moi c'est un peu du freestyle, hein, pour se garer comme tu dis, mais c'est aussi du freestyle pour commencer. Nico, comment tu vas toi?
Ça va bien, ça a été, je suis parti en avance, donc j'ai pas eu de problème pour me garer.
Ça va bien. Ouais, très bien, très bien, et puis Martha?
Je vais bien, merci. Toi aussi?
Ça va, super. J'ai un peu chaud, en fait. On m'a plongé dans ce bain, donc du coup, j'ai eu une petite bouffée de chaleur, mais voilà. On va partir, Régis.
Ça va très bien.
Qui gère.
Vous, les gars.
Alors, moi, je propose, c'est qu'on. Pour un peu creuser un peu là-dedans, on sait que voilà, cette expo, elle va traiter sur 40 années qui vont reprendre un petit peu les différents acteurs, les différentes disciplines, l'histoire un petit peu de ce qui s'est passé ici. On sait qu'on peut compter sur vous, sur des générations qui sont plus ou moins similaires. Sur des panels d'activités qui sont un petit peu plus chacun de son côté, plus déterminés, c'est-à-dire sur la production, aussi sur le rap, toi sur la production, et pour Nico, je parle sur aussi la production plutôt et le chant dans un groupe un peu plus pop, donc il y a un parcours un peu différent. Et je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être un peu voir ce qui vous a attiré vers la composition, vers le beatmaking, peut-être pas vers l'amour de la musique, je suppose que ça, c'est quelque chose qui vient de très loin, mais à un moment donné, comment vous passez, vous, le cap de vous dire bah, « je vais me mettre à faire des compos
Vas-y, je t'en prie. » Ah, tu viens de loin, frérot, t'as dit. T'as commencé, t'es parti tôt.
D'accord. Vas-y. C'était pour venir manger avant, c'est ça.
Ah, moi, je suis arrivé en retard, donc je vais pas encore... Vas-y.
Moi, ça a vraiment... La première fois que j'ai fait vraiment de la musique avec... c'était genre un vieux synthé... tout pourri, un ordi où il y avait que Cubase 1 qui tournait dessus, et après tout passait dans une cassette pour qu'on puisse avoir les instrus. C'était déjà dans l'idée de faire du coup des instrus, donc c'était dans l'idée de faire
parce
de la musique.
Est-ce que c'était déjà des instrus rap?
Ouais, c'était ça, pour que des gens rappent dessus, des gens en l'occurrence, moi et mon cousin, on avait 11 ans, donc c'était une catastrophe évidemment, les instrus et le rap.
T'as commencé à faire de la compo vers les 11 ans?
Ouais, c'est ça, parce que j'ai un oncle qui était musicien, et donc j'ai eu accès à un clavier, enfin un clavier, ouais. Un petit ordi. Donc ça a vraiment commencé tôt. Et puis, mais ça, c'est un truc qui nous avait laissé une semaine. Ça a disparu. Et puis, il y a eu, je sais pas, peut-être Auster, tu te souviens, Hip Hop DJ.
Ah oui.
Et donc,
un truc d'escroc avec voilà, le fil. Hein.
Exactement. Ouais, oui, t'as juste des boucles, tu les mets
DJ,
ensemble.
Hip Hop DJ, Groovy DJ.
Ouais, c'est
je
ça.
Je me rappelle.
Et donc ça, ça a été dans un deuxième temps un truc. Mais bon, t'es vite frustré parce qu'en fait, tu peux pas faire grand-chose à part rassembler des trucs déjà existants.
Ouais.
Et puis, vers 14-15 ans, j'ai un pote qui m'a installé Fruity Loops. Mais ça, on a en 2004-2005. C'était avant qu'il y ait une grosse vibe Atlanta où tous les mecs se sont remis à utiliser ça. Mais...
Avant même qu'on l'appelle FL Studio.
Ouais, c'était encore. Ouais. Ouais, d'ailleurs, je dis comme un vieux, je dis Fruity Loops.
J'ai capté que t'étais un ancien.
C'est vrai. Et là, moi, c'était. Je faisais toujours des instrus hip-hop parce que c'était vraiment mon premier rapport à la musique, c'était ça. Mais ça m'a ouvert à la musique électronique et puis après, comme tu disais, à la pop et à d'autres choses. Mais et donc, je dirais, c'est ça. Je sais pas si j'ai répondu un peu à la question.
Ouais, moi, peut-être plus précisément, est-ce que tu as un premier souvenir musical ? Tu vois, une chanson vraiment qui t'a marqué, qui t'a, voilà, qui t'a dit vraiment, ouais, moi, je veux faire comme ça.
Ouais, et en fait, je me souviens que, du coup, moi, pour faire de la musique, c'est que j'entendais des trucs et je me disais, putain, c'est trop bien, mais il manque... Ah, si je pouvais le faire, je ferais ça un tout petit peu différemment. Je sais pas si toi, t'as eu un truc comme ça. C'est horrible, hein. T'imagines un peu le comment on se prend pas pour de la merde. Mais de vrai, j'écoutais à une instru et je me dis, ouais, c'est trop bien, mais pourquoi ce moment-là, il est si court? Pourquoi est-ce que ça dure pas 3 minutes, en fait?
C'est marrant parce que tu parlais de Cubase, tout ça, donc t'avais déjà accès à de la technologie, quoi, tu vois, ouais, parce qu'il y a quand même deux périodes. Il y a la période, comme vous parlez, Fruity Loops, ça, c'est du software. Il y avait la période hardware qui est quand même qui consiste à avoir des éléments des gros trucs qu'on vient ajouter à un ordinateur qui a pas une grosse capacité. Comme tu dis, on le tire sur des cassettes.
Là,
après,
c'était le cas, ouais, t'as des sons de synthé pourris, tu les enregistres les uns sur les autres et après tu tournes tout sur une cassette pour avoir tout sur un seul truc, quoi.
Toi aussi, t'as connu un peu les deux ?
Ouais, vite fait ce qu'il dit là, mais moi c'était plus parce que j'avais des versions démo, je pouvais pas les exporter, alors pour tricher je mettais sur cassette.
Donc, ah oui, tu les exportais comme ça, tu les sauvais, tu les enregistrais directement, quoi.
Exactement. Moi, en vrai de vrai, ça... y a plusieurs étapes. Moi je me rappelle, petit déjà, ma soeur elle avait un synthé, je kiffais, je faisais de la merde avec, mais j'aimais faire de la merde avec. J'aimais juste ce petit truc qui générait du son. Et comment je me suis mis au beatmaking, en vrai de vrai, c'est... Au vu de ce que j'ai pu faire, c'était peut-être le destin, mais sinon, tel que ça a commencé, c'était vraiment le fruit du hasard. Mon père, il était informaticien, et il avait l'habitude d'aller réparer des ordinateurs à gauche et à droite chez autrui. Et un jour, je suis venu avec lui chez un ami de la famille pour réparer l'ordi, il y en avait deux. Et pendant qu'il réparait l'ordi, le fils de son ami, il était sur sa machine, et il jouait avec sa souris, et ça générait juste des sons de piano. Moi, j'arrive comme d'hab avec Audace, je le regarde faire et je lui demande qu'est-ce que tu fais ? Il m'explique le truc, je suis impressionné, il me dit oh, tu veux une copie ? Il me file une copie, CD, je rentre chez moi. Et voilà, plus de 20 piges plus tard, bon, on est encore dedans.
Il y a quand même un côté geek en fait sur le métier de compositeur beatmaker, en tout cas.
De fou, on a des vies de geek. En tout cas, je veux dire, quand t'es vraiment dans l'âge où tu découvres le truc et tu vois vraiment le potentiel et que t'as rien à faire dehors, en vrai de vrai. T'as pas grand chose à faire dehors, t'es pas un grand sorteur, bah ouais, fatalement tu restes, tu travailles pas, tu sors pour aller à l'école. Mais en fait, ouais, tu restes dedans.
C'est vrai que c'est une belle alternative, je veux dire, même, j'avais écouté Tariq Azouz. Tariq Azouz, c'est un gros beatmaker français qui travaille avec Jay-Z, enfin avec DJ Khaled, Rick Ross, tout ça. Et lui, il disait carrément que même ses parents avaient aménagé la cave pour lui faire un stud.
Ça tue, ça.
Et tout ça pour qu'il reste à la maison.
Ça, il est pas dehors. Mais ça tue.
Et même à l'heure actuelle, il retourne là-bas pour faire ses débuts d'idées, enfin je sais pas, il passe du temps là, il adore.
Ça tue. Mais en vrai de vrai, avec du recul, ça tue, parce que moi je crois que j'ai jamais été un grand voyou, etc. etc. Ouais, j'avais des potes qui l'étaient peut-être un peu plus, mais le fait de passer beaucoup de temps chez moi,
bien sûr,
sur l'ordinateur à faire de la musique, je pense que ça m'a fait éviter de faire un tas de conneries juste dû à quoi ? À l'ennui.
Bah ouais,
l'ennui, c'est le meilleur ami des pires conneries, parce que souvent c'est parce qu'on s'ennuie qu'on fait de la merde.
Carrément.
Quand t'as plein de choses à faire et que t'as des objectifs plein la tête et de la volonté évidemment, bah t'as pas le temps en fait de t'ennuyer et de réfléchir à des trucs qui pourraient t'emmener dans des grosses galères. Et à force d'être là, sur mon ordi, bah ouais, c'est vrai que parfois j'entends des trucs de dehors, ah lui il a fait ça. J'aurais pu être avec eux, mais j'étais sur mon ordi à faire mes trucs de geek, à découvrir la musique. Et ouais, c'est une drogue. Je pense que tu me contrediras pas.
Je trouve que c'est une fois super que phrase, tu commences. Ouais, ce que tu as dit, qu'en fait, une fois qu'on commence à faire la musique, on n'a plus le temps de s'ennuyer. C'est plus possible parce que tu es là, tu as toujours des nouveaux objectifs, des nouveaux trucs. Tu as entendu un truc et sorti. Putain, mais ça, c'est une
dinguerie. Tu n'as même plus le temps de dormir, en vrai. Ouais, tu es là, tu t'essayes de dormir, puis tu réfléchis. Ah ouais, mais si j'avais changé cette note et fait ça. Des trucs bizarres. Alors quand tu vis avec une femme, alors elle te voit vraiment chelou. T'es là la nuit, tu réfléchis à ça. Des fois, tu parles même dans ton sommeil. Tu te lèves la nuit, pas pour pisser, mais pour aller sur l'ordi, pour aller modifier 2-3 notes d'un truc que personne ne va jamais écouter. Parce que t'as dû faire des compositions.
Ils vont pas entendre, personne n'entend la différence.
Exactement. Et ouais, ça fait une vie vraiment bizarre, mais Mais c'est cool en vrai.
Bah c'est bien ce premier podcast, on part tout de suite dans l'intimité même des compositeurs. Je trouve que c'est bien, on voit les choses bien en profondeur. Très bien, donc moi ce que je propose c'est qu'on continue un petit peu à parler de tout ça, de votre parcours. Vous êtes tous les deux issus de la région liégeoise, vous avez tous les deux un parcours différent. Peut-être que ce que je peux faire, c'est peut-être un peu retracer ce que j'en connais, et puis tu viens meubler, parce que je déteste moi, les gens qui font des interviews et qui disent « présente-toi », je trouve ça vraiment super nul.
Merci.
Nico, nous, on s'est connus dans des circonstances liées au travail, où on s'est vu pour du coaching scénique, tu travailles aussi avec le label Nectar, avec lequel tu vas travailler pendant presque un an à réaliser des enregistrements pour eux, que ce soit dans les écoles, que ce soit du mixage, des choses comme ça, donc des prods. On avait collaboré aussi sur des prods avec Acro à l'époque. Donc t'as ce côté où, comme je le disais, tu viens aussi d'un univers un peu pop, un peu électronique aussi, et hip-hop.
Ouais.
Si je peux
tout à fait.
Cartographier un petit peu ton univers.
C'est ça, moi, premier amour de musique, c'était vraiment le rap, parce que génération, moi je suis de 89, donc tu grandis avec MCM, MTV, et... Bon, à l'époque, c'était un peu divisé. T'avais les gens qui écoutaient plus du rock et les gens qui... Bon, voilà, en fonction de je sais pas, certains paramètres, ça fait que tu vas d'un côté ou de l'autre. Mais moi, j'ai grosse claque en découvrant le rap américain, vraiment, grâce notamment à Jerry, parce qu'il piquait les CD de son frère. Mm-hmm. On piquait les CD gravés de Ballot. Donc, on avait accès à Mos Def, à The Roots, alors qu'on avait 13 ans. Enfin, tu vois, ça passait à minuit sur MTVO, mais en semaine, tu pouvais pas regarder. Enfin, donc, on avait accès à des trucs assez ouf, assez jeunes. Et donc, ça, c'est une chance de dingue. Ça a cartographié un peu
l'univers dans lequel tu voulais construire ta musique.
Ouais, et ce côté un peu sans concession, c'était des artistes quand même qui avaient des choix qui n'étaient pas toujours évidents et qui gardaient ce truc-là. Je crois que j'ai pu un peu m'auto-saboter à des moments avec ce genre d'idées aussi, mais...
Tu parles rap américain, toi, austère, est-ce que toi, t'as évolué aussi un peu dans cet univers-là, d'abord, comme influence première?
Ouais, il y a... Non, je dirais pas influence première. Je crois que, moi, les premières influences, c'était les disques de mon père.
Qui sont des disques...
Il y a de tout. Il y a de la variété française, il y a de la musique, la rumba congolaise. Il y avait mes sœurs aussi qui étaient plus pop. Franchement, je pense pas avoir commencé le premier coup de foudre pour la musique. Non, je dirais pas coup de foudre, je dirais intérêt. Pour la musique, je pense pas qu'il ait été rap directement. Mm-hmm. Mais après avoir sillonné tous ces genres musicaux que j'entendais à la maison, quand mon frère arrivait avec ses premiers disques de rap, etc., que les trucs MCM et tout le tralala, enfin, que la musique rap a commencé à passer à la télé par moment en radio... Ouais, je pense que ça a été une claque pour beaucoup de gens de ma génération.
Et là, t'étais plutôt dans quel vibe dans les premières compos?
Dans les premières compos, comme il a dit, les premières compos, c'était de la merde. Je n'arrive même pas à dire ce que c'était réellement si je les écoute aujourd'hui avec du recul.
Ce que tu pensais vouloir faire, c'était quoi?
Je pensais vouloir faire, je pense que c'était plus des trucs qui en rient. Il y avait aussi un peu de vibe française, francophone, mais c'était plus, je pense, comme tout le monde, des trucs qui en rient. Mmh. On voulait tous être le...
Est-ce que tu t'es mis à rapper sur tes prods en premier, toi?
Est-ce que... Légèrement plus tard. Après, j'étais entouré de mecs qui rappaient aussi. Mmh. Certains même mieux. Enfin, voilà, il y avait vraiment un truc, etc. Et j'étais le seul à faire des prods, sinon on téléchargeait tout sur Internet. Donc, je me suis vraiment perfectionné là-dessus. Et... Sans me dire, je fais ça pour mes potes ou pour les autres ou pour le reste de la Terre. Mais voilà, j'avais juste envie de me perfectionner. Puis un pote passe. Ah, c'est lourd, j'aime bien ça. Ouais, on peut essayer. Tiens, un autre passe. Puis tu deviens une espèce de dealer, comme un dealer de drogue.
C'est
ils
ça,
viennent
c'est
chercher
ça,
leur bah dose, ouais. Et tu donnes. À la base, tu la donnes à tes potes. Après, tu la donnes aux potes des potes, puis les mecs de la ville d'à côté, puis après, du pays d'à côté.
Et puis après, on en parlera, mais après, il y a eu des grosses collabs aussi. Peut-être qu'on peut, on peut évoquer un petit peu les gens qui gravitent un petit peu artistiquement avec toi depuis le début. C'est des gens plutôt de où Est-ce qu'on parle de quartier? Est-ce qu'on parle de groupe?
Moi, musicalement, j'ai vraiment travaillé avec tellement de gens. Là, actuellement, je suis avec mon bras droit qui est ici, à Kofa. Mm-hmm. Mais sinon, moi, à la base des bases, j'ai commencé avec un groupe, on s'appelait Cash Production. Cash Prod, des amis de Bressou, de Drax. Et voilà, je produisais un petit peu pour la plupart d'entre eux.
Ça, c'est quelle année, ça?
Ça, c'était début 2000, je sais pas, 2003, 2004, 2005, dans ces eaux-là. Ouais, j'ai commencé vraiment super tôt.
On fait le décompte, ça fait loin, mais...
Ça fait, je suis un ancien.
Il y a une histoire dans cette ville.
Ouais, c'est juste que... Ouais. on est bien gâté par la nature, mais je suis
tout
un ancien. Mais je rigolais.
Et dis ça parce qu'il y a la vidéo, de toute façon, les gens l'ont constaté, mon vieux.
Non, mais voilà, blague à part, j'ai commencé à produire pour mes potes, et voilà, c'était cool. Il y avait une certaine, j'ai pas envie de dire hype, mais voilà, il se passait quand même un petit truc. Il y avait une petite effervescence par rapport à ce qu'on faisait.
Donc, cash prod, mais ça s'est étendu aussi à d'autres quartiers, pas que sur Bressou.
Ouais, voilà. Et puis même moi, je veux dire.
Là, il y a Buranville, il y a aussi avec. Il y a Sub-Zero aussi qui va travailler chez toi.
Ouais, voilà. Ah ouais, là tu parles de...
Là
t'as fait un bond dans le temps, sinon, après pour revenir à cette période-là, je pense que j'ai vite compris que, je crois dans ma tête que ça allait vite tourner en rond, que vas-y c'est cool, c'est bien, mais ça va donner quoi dans 2, 3, 4 piges, est-ce que je serai toujours là à faire la même chose? Alors ouais, je me le souhaite parce que je kiffe faire de la musique, mais j'avais envie d'en faire une à plus grosse échelle. Je me rappelle des fois quand je faisais des premières parties...
En tant que rappeur là tu parles?
Ouais. Mais je kiffais tellement la prod que je me voyais pas spécialement dans le futur comme un rappeur. C'était cool, c'était, il y avait des opportunités qui s'offraient à moi, je me fermais pas les portes. Et ça m'arrivait, quand j'avais accès à l'artiste, c'était quand même assez chaud à l'époque, les artistes ils étaient vraiment très fermés, c'était dur d'avoir accès à eux, etc.
Tu parles des artistes belges, des artistes liégeois ou tu parles des...
Tout court, artistes tout court.
Ah oui, t'as ressenti ça, toi, une difficulté d'accès.
Ouais, ouais. J'ai même une anecdote avec un artiste, je ne citerai pas son nom, je lui ai passé le CD. Et je sais pas, une demi-heure plus tard, j'ai retrouvé par terre dehors.
Dur.
Ouais, j'étais en boîte en Allemagne, il y avait Kid Ink aussi. Et je lui ai pas. Même le manager de la boîte m'a déconseillé de lui passer un CD. Et moi, voilà, comme je suis têtu et bête des fois, j'ai quand même passé le CD. Deux minutes plus tard, je sais pas, il était bourré, il y avait du monde. Frisbee dans la boîte avec ton CD là comme ça.
Waouh.
En plus je suis pas pété, je suis pas sous, je suis totalement sobre. Alors je suis là avec des yeux de chien battu en train de regarder mon CD faire le tour de la boîte. Puis voilà, c'est des trucs voilà, c'est des petites anecdotes, mais je les vois aujourd'hui avec plus de recul et second degré.
Là tu vois, t'as un gros parcours, on parle dans l'Allemagne, il y a aussi des bails avec la France, il y a des trucs ici sur Liège, du régional. Et toi Nico, nous on parlait un peu de le côté un peu pop, le côté collab aussi, toi. Qu'est-ce que tu pourrais citer comme collab de gens avec qui tu as travaillé sur des prods, etc.
L'aspect pop dont tu parles, c'est qu'on a fait un groupe avec des copains et copines en 2012.
Qui a quand même un certain succès, quand même.
Ouais, ça a bien marché. Ça s'appelait La Plage. On a signé sur un gros label new-yorkais. Un label où il y avait Reggie Snow au début. Je sais pas si vous connaissez Reggie Snow, le rappeur.
Ouais, moi je vois.
Enfin bref, c'était un gros truc, c'était assez dingue et ça s'est bien passé. En fait, on a eu de la presse assez facilement, rapidement, c'était super cool. Et puis on a sorti des trucs comme ça et c'était une manière de... Moi, je venais du beatmaking tout seul dans la chambre, etc. Et de faire un groupe, c'était aussi un délire justement pour la collaboration et tout. Donc c'était hyper intéressant et ça, après, ça m'a permis de retravailler avec d'autres artistes, mais des trucs plutôt des Liégeois, donc avec toi et Acro. Avec le groupe Les Anonymes aussi, c'était hyper cool. On a fait un projet. C'était cool. Bon, ils ont pas continué après.
Ça, c'est 2016, 2017.
Ouais, 2017, je crois. Puis du coup, là, toutes les collabs maintenant actuelles, bon, il n'y a rien qui est encore vraiment sorti.
T'es sur l'album de Marou, là.
De Marou, c'est ça.
Les singles sortent, là, pour le
moment. J'ai aussi fait un morceau avec Bleuroise.
Ouais.
Avec qui on s'est vraiment bien marré, qui est une super artiste. Je bosse avec Elias Don Fuego aussi, on est en train de terminer un disque, là ça va être très très cool.
Tout ça, ce qu'on nomme, c'est des artistes légers, donc n'hésitez pas à les écouter, à les diguer.
À fond. Et voilà, moi je me suis rendu compte vraiment avec le temps que ce qui me faisait kiffer, c'était de travailler avec des... Je parlais de ça tout à l'heure, c'était de travailler avec des gens en fait, et d'aider des artistes à mettre en forme une vision, parce que j'imagine toi aussi t'as déjà bossé avec des rappeurs ou des rappeuses qui te disent, ils ont pas le langage spécialement technique, tu vois, pour te parler d'un, mais ils ont des idées, ils vont te parler de couleurs, je sais pas, de films même, ou d'autres chansons, d'arriver à retranscrire ça dans...
Toi, tu dois te charger de musicaliser ce qu'ils racontent, même si parfois ça sonne pas très français.
Ouais, c'est ça, exactement, mais je trouve ça super, en fait, genre de traducteur comme ça.
On est obligé, on a...
Et entre vous arrivez pas plutôt à communiquer, si vous deviez faire une prod tous les deux?
Je pense que oui.
Un peu même génération en plus, je crois.
Je pense que en tant que producteur, on apprend aussi à parler plusieurs langages. C'est-à-dire qu'il y a plein de manières de mal s'exprimer. Mmh. Mais la manière dont le premier va mal s'exprimer, c'est pas la manière dont le deuxième va mal s'exprimer. Il y a troisième, quatrième, etc. Et nous, on apprend à disséquer tous les langages. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, je sais pas, il y en a, il va dire ouais, fais-moi un peu un bruit là, genre océan. Ça n'a rien à dire en vrai de vrai, tu vois. Mais toi, tu décortiques le truc, ok, okay ça va.
Et puis l'océan pour lui, il sera pas le même océan que pour l'autre
personne. Il veut un filtre, il veut ça, il veut un reverb, ça. Mais lui, dans son langage, c'est océan. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est voilà, on apprend à décortiquer comme ça.
Et... C'est des vrais moteurs de recherche, quoi, les gars, en fait.
De fou, rendez-nous nos lettres de noblesse. C'est un truc de ouf.
Est-ce que ici à Liège, il y a des gens qui ont été un peu des références pour vous ou qui vous ont aidé dans le beatmaking, dans le développement, ou des gens où vous aimiez la vibe, ou plutôt qui vous a, leur prod vous a inspiré?
Moi, il y a un groupe, je sais pas si tu connais Starflame, je sais pas si
c'est... Ouais.
Moi, j'ai halluciné des, justement la partie prod, sans faire de la lèche à tonton qui est là, mais la partie prod, moi, ça m'a scotché parce qu'en fait, j'écoutais des disques, je sais pas, j'écoutais Outkast, tu vois, j'écoutais Tribe Called Quest, des trucs comme ça. Et je mettais, tu sais, c'était l'époque des Chenifi où t'avais plusieurs plateaux de CD là. Et puis je passais sur un CD français ou un truc, et je mettais votre album survivant ou même celui avant là, Sonora, et ça sonnait comme les Ricains. Ça sonnait pas comme les Français. Il y avait un son, et je me suis dit, putain, c'est ouf, comment est-ce qu'ils ont eu ce son là? Je connaissais rien au truc, tu vois, de mix, compresseur et tout. À l'époque, je connaissais que dalle, mais je captais qu'il y avait un son qui était quand même ouf pour un truc ici, quoi.
Je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est surtout. Faire le parallèle à ce que tu me dis, moi j'ai été choqué en fait de me dire que, tu vois, au début ça paraît lointain, on a parlé de rap français, on a parlé de Quinry, on parle de ceci cela, et en fait moi j'ai été choqué de me dire que en fait chez nous c'est faisable, il y a des gars qui font vraiment ça. Moi je me rappelle, j'étais en première au collège Saint-Louis, et je pense vous étiez passé là, vous aviez tagué survivant partout, etc. Et je le voyais partout, mais moi au début j'avais même pas encore capté que vous étiez de la région. Un jour, je t'ai vu sur une terrasse, j'étais avec un pote, et il m'a dit « Ah putain, c'est bien !» Je savais même pas au début. Mais après, quand j'ai commencé à voir un peu le bordel, c'est vraiment le mélange de plein de choses en même temps. Starflame, les producteurs de Bruxelles, Street Fabulous, etc. Voir que ces gars-là, ils produisent pour tout le monde, etc. etc. Et surtout qu'ils ont un son avant-gardiste. En fait, je me suis dit « Putain, c'est faisable !» En fait, de chez nous, il y a des mecs qui font aussi les choses. Donc si eux le font, mais en vrai, ça veut dire que je suis pas si fou que ça, parce que quand tu fais ce truc-là au début, tes potes, ils te voient comme un extraterrestre. Ta famille te voit comme un extraterrestre. Alors certes, ils aiment bien, tu restes à la maison, tu fais tes trucs, mais ils se disent, mais ça va, ils se regardent entre eux, ils disent, ça va devenir quoi, ça, dans 10 ans, tu vois?
J'aime bien ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est une discipline assez solo, qui fait partie d'un sport collectif, quoi. Ça fait partie d'une culture comme ça, collective, où on a besoin les uns des autres et tout.
Exactement.
Et c'est bien, parce que toi aussi, t'as fallu un impulse de voir qu'il y a des choses qui se passent pour dire, je veux en être, en fait.
Exactement. Mais c'est très dur d'expliquer ça à des gens qui sont pas dedans. C'est-à-dire que si toi, demain, t'as envie d'être un footballeur, et tu vas dire ça à ton père, bon, même s'il aurait voulu que tu fasses des études de médecine, mais là, il va conceptualiser le truc. Ah, ok, football, Ronaldo, ça. Ouais, je veux être producteur de musique. De quoi tu parles? Il comprend pas le concept, alors.
Maintenant, tu peux arriver avec les chiffres, tu peux montrer justement.
Ouais,
tu peux dire, regarde.
Il veut pas voir les chiffres, il veut voir le portefeuille. Voilà. C'est ce que je veux dire. Mais je veux dire, blague à part, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Et toi, justement, tu te réfères au fait que. Ah ouais, il y a lui, il y avait vous, il y avait. Comment il s'appelait encore celui-là? Il a fait un morceau, là, faut que ça arrive. Max Elio? Non, je sais plus.
Ici sur Liège?
Ouais, je sais plus. Ah,
à l'ancienne, il y avait des gars aussi. Il y avait DJ Sedat qui est parti faire de la house.
Après, il y en a plein. Je veux pas écorcher
Junior
des blagues.
Junior qui faisait du R&B.
Il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de mecs qui faisaient des choses, etc. Maintenant, je parle de vous, on parle de Street Fab, parce que ça, c'était vraiment grave visible. Et il y avait aussi, je sais pas, les Gandhi et plein d'autres. Et ça a donné envie de pas lâcher l'affaire. De se dire, si eux, ils l'ont fait, ça veut dire qu'ils ont deux bras, ils ont deux jambes, ils ont un cerveau comme moi. Ils ont la passion comme moi, visiblement. Bah, ça veut dire qu'il y a une route qui est tracée, même si elle n'est pas très visible pour les gens autour de toi qui te prennent pour un ouf, etc., etc., qui ne comprennent pas trop ce que tu veux, ce que tu essayes de faire. Mais vas-y, on peut le faire.
Mais le truc de sport collectif dont tu parles, ça, je trouve ça intéressant, parce que ça faisait partie de l'attrait aussi, moi. Je voyais Puta Madre, CNN, où tu avais une vibe, c'était pas un ou deux dudes, il n'y avait pas de réseau, etc. Il y avait un truc très... c'était une famille, ils avaient du merch de ouf, ils taguaient, ils retournaient tout le pays. Il y avait des.
Bien sûr,
il y avait un truc de gros groupe comme ça, comme avec ça. Il y a un truc de famille, de. Je sais pas, c'est cool d'avoir ce sentiment aussi d'appartenance à un truc plus large.
Je vous en invite tous les jours, c'est toujours cool d'avoir un sentiment d'appartenance. Mais encore, à plus forte raison, comme je disais, dans un milieu où tu te sens souvent un petit peu seul et pas compris quand autour de toi les gens sont pas trop dedans, bah ouais, voir des trucs comme ça, tu te dis ah, ça serait cool si. Et je pense que nous aussi peut-être dans un certain sens on s'est peut-être dit la même chose, c'est cool, il y a des collectifs là, ils font ça là-bas, ils font ça là-bas, nous on fait pareil. Et on était contents quand on allait sur scène à plusieurs, quand on faisait du studio à plusieurs. C'était franchement, il n'y avait pas de perspective de carrière ou quoi que ce soit. On ne connaissait rien, ni la SABAM, ni la SACEM, ni les droits d'auteur, ni les ceci. C'était chinois pour nous.
C'est quoi ta DA?
Je déteste ces deux lettres, je te jure, c'est deux lettres que je déteste.
On va reprendre le mot DA, direction artistique, parce que moi, ce que je trouve qui est cool ici sur Liège, c'est qu'on a quand même, dans différents quartiers, t'as, je dirais, des impulses différents par rapport à la composition. Moi, je trouve qu'il y a un axe, très vite, il y a eu des gens qui se sont mis à produire à partir de software ou de création qui sont vraiment purs ordinateurs, avec même des gars qui composaient à la PlayStation, tu vois. Il y a eu une passe à un moment donné comme ça avec la PS1, il y avait un jeu pour composer et tout. Et il y a ceux qui étaient l'école du sampling. Et puis il y a une troisième école qui est venue, c'est ceux qui ont eu des cours de solfège, etc., et qui se sont mis à composer et à pouvoir jouer et faire des mélos, plus à sampler, mais tu vois, et juste à utiliser peut-être les outils de composition pour des rythmiques, pour tout ce qui est drum, tu vois, tout ce qui est basse, et puis tous les ajouts mélodiques, ça s'est mis à chanter, etc. Donc il y a vraiment une diversité, je pense, dans les différents prodeurs, les différentes couleurs de sons aussi qui sont faites. Tu vois, quand tu vas du côté de tout ce qui est serein, les tricks, tout ça, il y a toute l'école NK, par exemple, tu vois, NK, c'est un mec, c'est de la MPC, quoi, c'est un son New York, tu vois, il y a toi qui fait des trucs un peu style comme les Hollandais, ils font aussi, tu vois, c'est-à-dire une musique qui est à la fois possible en club, mais avec de la basse bien lourde, tu vois, avec une grosse identité, grosse frappe. Ouais. T'as les mecs qui font la drill, tout le côté 4020, machin, là, tous les gars, Bressou, Drax et tout ça, qui étaient à un moment donné à fond dans la drill, tout ça. Puis t'as les compositeurs plus musicaux, on va dire plus musicaux, variés, dont toi, Nico, moi je pense que tu fais partie, t'as un éclectisme qui est plus grand, qui est moins marqué, t'es plus caméléon, enfin on va dire, t'es plus diversifié. Y a un peu tout ça. Qu'est-ce que vous pensez, vous, un peu, vous êtes quel team, vous, sampling, compo, comment vous fonctionnez?
Moi je suis team tout, hein. Il y a des moments où sample, il y a des moments où c'est de la pure compo. Je trouve ce qui est cool, c'est de mélanger les choses, quoi. De mélanger les techniques et les textures. Donc, ça dépend des besoins, hein, de la personne avec qui tu bosses, de l'inspi du jour, de si t'as entendu un truc qui t'a matrixé le cerveau et que tu te dis putain, et que c'est un truc samplé. Là, il y a une grosse. Ça, je crois que ça s'est un peu calmé, mais toute la grosse vibe, West Side Gun et tout ça. Même Alchemist qui revient avec des trucs du sampling sans batterie, là, et tout ça. Je crois qu'il y a plein de gens qui sont revenus aussi à ça à un moment. Toi, je sais pas où tu te situes par rapport à ça, mais...
Moi, j'ai passé plusieurs périodes. Avant, j'étais le genre de gars qui disait, ouais, jamais de sample.
Non. Pourquoi ?
J'étais con, c'est tout. J'étais con. Ouais, il n'y a pas de raison.
T'avais juste pas envie ?
Non, j'étais con. Je pouvais faire. J'ai fait des trucs plus compliqués que ça, mais j'étais juste con. Dans le sens où je pensais que... Vas-y, t'es pas un vrai compositeur parce que c'est pas vraiment ton idée.
C'est de la triche.
Ouais, en vrai, moi, je suis team bonne musique. Ça claque ou c'est rincé. Point barre. Si t'as composé des heures et des heures et que c'est rincé, compose pas, va sampler. Si tu samples, et que c'est rincé, essaye de composer. Voilà, c'est juste, moi, tant que ça tue, ça me va.
Okay.
C'est tout. Après, je suis passé par toutes les périodes et j'ai travaillé avec tout type d'artistes. Il y en a qui préfèrent les samples. Mais voilà, aujourd'hui, le rap, ça a évolué, la musique a évolué d'une manière globale. Donc du coup, on a vraiment... Tu peux créer tes propres mélodies, ça t'évite aussi des couacs avec les droits d'auteur, et ci et ça, te faire sauter tes... à l'époque, c'était te faire retirer tes disques des... Ah, j'aime pas ce terme. Des bacs. Ça existe encore, ça ? On utilise encore ce terme-là. Voilà, maintenant, on te fait sauter les trucs des plateformes de streaming. Mais voilà, je pense que pour moi, c'était aussi une alternative à ça, à tous ces trucs-là. Combien de fois après déplacement, ouais, mais ça c'est un sample de quoi, c'est un sample de qui? J'avais fait un morceau pour Niro et je me souviens, je sais plus, un membre de l'équipe m'avait posé la question, ouais, le sample il est d'où? J'ai pas samplé, c'est tout compo. Ah ouais? J'étais quand même un peu fier. Ouais. J'avoue, j'ai un peu flex ce jour-là. J'ai beaucoup flex. Mais voilà, c'est. En fait, des fois, pour beaucoup d'artistes, ils se disent aussi, vas-y, ça retire beaucoup de galères. Il a pas pris dans tel, faudra pas téléphoner à telle maison de disque de tel artiste qui, si ça se trouvait mort, donc ça sera la famille, et si des fois c'est des histoires de fous, et donc après au-delà du fait que je voulais pas sampler parce que j'étais con, il y avait aussi cet aspect-là. Mais voilà, aujourd'hui, enfin, je le savais déjà avant, mais il y a tellement de manières de sampler sans se faire sauter, etc. Il y a plein de trucs à faire. Et j'ai trouvé qu'il y avait aussi des sonorités que je n'étais pas spécialement capable d'atteindre en composant. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, je prends cette boucle-là, je la découpe, je fais ça. Hop, même l'artiste de base, il ne va pas le reconnaître. Donc voilà, je suis team les deux. Tant que ça claque, ça me va.
Et ouais. Vous êtes tous les deux autodidactes ou est-ce que vous avez appris auprès de personne, enfin?
Moi, c'était autodidacte ou alors auprès de potes qui parfois avaient un peu plus de, par exemple, c'est un pote qui m'a installé FL Studio quoi, qui m'a un peu montré, ah ouais, tu mets ta snare là, tes trucs là, et puis après, mais non, ouais, plutôt autodidacte, pas de solfège et tout ça quoi.
Moi non plus, j'ai tout appris tout seul. Même FL Studio, c'était en anglais. Tu as vu, je parlais aussi bien anglais que je parlais chinois, tu vois.
Est-ce que vous croyez que c'est générationnel, ça, le fait d'être vous dans une génération plutôt autodidacte ou...
Ça allait plus, tu penses? C'est vraiment...
Non, je pense qu'on était juste dans une génération où on faisait partie, il y avait d'autres avant, donc on va pas manquer de respect, mais on était les premiers à chipoter à ce truc-là. Et donc on n'avait pas d'exemple, on pouvait pas aller sur YouTube, etc., comment faire ça, on devait le faire tout seul. Et aujourd'hui, les plus jeunes, ils ont, et c'est bien.
C'est une sorte d'école, en fait, qu'ils ont maintenant.
Ouais, bien sûr, ça c'est bien pour eux, ça, c'est un raccourci. Je pense que de toute façon, de génération en génération, on va chaque fois prendre des raccourcis. Le plafond des uns, c'est le plancher des autres, tu vois. Nous, on avait notre plancher qui était peut-être le plafond de certains, qui n'ont peut-être pas spécialement directement compris toute cette vibe FL Studio composée à l'ordinateur, etc. etc.
Le raccourci, c'est ça, gros. FL Studio, c'est le raccourci du magnéto à bande, quoi.
Exactement. On a pris le relais. Puis après, bah, y en a d'autres qui arrivent là, qui vont bénéficier de tout le savoir qui a été mis en place depuis de FL Studio, là, le premier, le deuxième, jusque je ne sais plus. C'est quoi le dernier?
Je ne sais pas, je bosse plus dessus, je ne sais même pas, je ne saurais même pas te dire.
Bon, jusqu'au dernier, bah voilà. Eux, pour eux, ça sera un raccourci dès qu'ils vont s'y mettre. Donc ça, je trouve que c'est super cool et longue vie à ça.
Tu parlais, quand on parlait du sampling, on parlait de droit. Donc qui dit droit dit aussi placement, quoi. Qui dit placement, ça veut dire arriver à placer ses prods auprès d'autres rappeurs, d'autres, de labels. Vous, est-ce que ça fait partie de votre histoire, ça? C'est quoi vos meilleurs placements?
Ah, je t'avoue, j'aime pas répondre à ça. Moi, en placement, c'est un placement. C'est-à-dire que j'ai pu placer pour certains gros noms, j'ai pu placer pour des frérots, je suis content, c'est sorti, le son il claque et c'est bien. Après, les gros placements, honnêtement, c'est cool pour flex un petit peu, on va pas se mentir. Surtout pour flex en vrai de vrai. Maintenant, s'il n'y a pas tout l'aspect financier derrière qui suit, bah c'est beau de l'extérieur.
Ça s'est passé pour toi, c'était compliqué, il y a eu des choses compliquées comme ça.
Il y en a eu plein, mais je connaissais rien du tout. Moi, j'arrivais, tout ce que je voulais, c'est je voyais des gros artistes. Ah, je veux faire partie de leur histoire, je veux monter dans le train. Mais toi, on te fait monter dans le train.
T'as travaillé avec qui, en fait?
Je sais pas, il y a eu des en France pour les connus, il y a eu des Rof, il y a eu des Lafouine, il y a eu Sultan à une époque, il y a eu un son qui a été placé, c'était en featuring avec Kerry James, Kalash Criminel. Ouais, il y a quelques petits noms comme ça.
Ça, c'est des placements, gros, tu vois, c'est cool.
Ouais, mais après, je dis, ouais, c'est cool, mais si t'as les placements sans connaître les rouages du truc, t'as vu, tu vas te faire éblouir par le fait que t'aies fait des gros placements.
Mais là, maintenant, t'as accompagné, tu vois, je veux dire, tu peux en discuter au moins et avoir quelqu'un qui a aussi un regard sur toi. Peut-être que t'étais vachement solo à ce moment-là.
Ouais, mais je le suis toujours, j'ai toujours eu quelques gars autour de moi.
Mais là, t'as quelqu'un qui s'occupe vraiment avec toi.
On a plusieurs regards, mais je veux dire par là qu'il y a plein de choses que je ne regardais pas, et je me dis ça peut te... En fait, si tu sais pas ça et que tu fais pas les choses bien, tu peux passer de l'émerveillement au dégoût total. Je connais plein de gens qui ont fait même plus que moi, qui aujourd'hui ont arrêté la musique. Ah ouais, c'est ça la musique, c'est ça la réalité du truc. Vas-y, ils allaient se faire foutre. Allez, j'arrête ça, je fais autre chose.
Et justement, s'il y a quelqu'un, tu vois, un jeune beatmaker qui nous écoute et qui a envie justement de se lancer ou de faire des choses, il y a des choses que tu lui conseillerais ou que tu lui conseillerais pas justement?
Va à l'école. Non, va à l'école, lâche pas, parce que c'est vrai, c'est important l'école. Ouais, mais est-ce que je...
Mais par rapport au placement, justement.
Je conseillerais, ouais, juste d'étudier un petit peu l'industrie de la musique, comment ça fonctionne, etc. Comment on génère de l'argent avec ça. Parce que, en vrai de vrai, si tu te renseignes pas, personne ne va te renseigner.
C'est ça, c'est de se faire aider là-dedans.
En fait, quand t'es intelligent, on profite de ton intelligence. Quand t'es con, on profite de ta connerie. C'est pas, j'ai pas inventé ce principe-là. Le monde, il est comme ça depuis toujours. Et donc, du coup, quand tu es juste, c'est par rapport à ça. Parce que c'est vrai que ça faisait un petit peu aigri la manière dont je l'ai amené. C'est grave cool. Mais c'est juste que si derrière t'as pas tous les paramètres exacts à prendre en considération. Quand tu fais ton placement et que les gens te disent ouais, « c'est lourd, t'as placé pour lui, on t'a vu là, t'étais passé à Skyrock, t'as fait ça », bah tu vas vite passer de « waouh » à « dégoût » en vrai.
Mais c'est
vrai.
Quoi ces paramètres par rapport à ça. Tu parles, tu vois ? Un exemple concret, tu vois ?
Bah, pas te faire voler ta prod, par exemple, ça, pas te faire voler tes... des fois, t'as des sons, tu me dis si je me trompe, tu vas les composer, tu vas travailler comme un chien dessus, et puis au final, dedans, tu vois, dans les compositeurs, t'es le dernier à qui t'as un petit pourcentage, Et c'est qui les gars là-haut? Je les ai jamais. Ouais, je les connais pas. Il y a un mec qui va arriver, il va mettre juste un kick dessus. Il va mettre, je sais pas, un petit bruit de piano. Et du coup, ça va justifier un 50-50. Mm-hmm. C'est de la folie. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est de la folie en vrai de vrai. Ouais. Et toi, tu te dis, mais moi, j'ai travaillé comme un fou jusqu'à je sais pas quelle heure. Il y a des artistes même pour qui je me suis permis de pas aller à l'école le lendemain parce que j'ai travaillé toute la nuit sur leur truc, etc. Après, tu vois des trucs comme ça, ça peut te dégoûter de fou. Mm-hmm. Même si ton pote, il va dire, ah frérot, c'est lourd ce que t'as fait. Ouais, encore une fois, de l'extérieur, mais
ouais,
de l'intérieur.
Et tu es certainement voilà. Pas un cas isolé. Ouais. C'est quand
bien
même,
sûr, ouais, je dis ça, je pense que. Voilà, si, ça, je pense que plein de gens pourront témoigner de la même chose. Mais c'est juste ça que je veux dire par rapport à ça. C'est super cool d'avoir des placements, c'est bien, tu peux flex avec. Mais
tes bons placements, ceux pour voilà. Lesquels t'as de l'affect et que tout se passe bien, c'est par exemple qui ? Qu'est-ce qu'on peut citer ?
Moi, c'est plus en Allemagne après.
Beaucoup ?
Ouais.
Mais sur Liège aussi ?
Ouais, bien sûr, avec tous les refs avec qui je bosse ici. Bon, à Liège, on a plein d'artistes. On a des gars comme Sub-Zero, on a des gars comme Boobs, on a Fresh La Peufra, on a Bakari, on a eu qui encore ? On a eu Maka, on a eu... y a Mona aussi. Ouais, ouais. C'est une tueuse, Mona. Il y a eu plein, il y a beaucoup de gens. Il y a un gars, il s'appelle Tani, qui, lui, malheureusement, ne veut pas sortir ses morceaux, or que c'est un tueur. Et j'essaie de lui dire tous les jours, mais voilà, il est têtu, il veut pas l'entendre. Mais c'est un tueur, Tani, T-A-N-I. Et ouais, avec que ça se passe, c'est cool. Mais voilà, là, on bosse plus en famille, etc. Et je pense qu'il y a aussi une espèce de respect hiérarchique, tu vois. Ils m'appellent tous l'ancien, etc. Mais je pense que c'est plus une marque de respect, tu vois. Et ça fait super plaisir. Et donc, du coup, dans cette atmosphère-là, ça me fait plaisir de pouvoir placer des trucs, etc., de les voir évoluer, les voir écouter les conseils, les appliquer, etc., etc. Maintenant, pas tous, il y en a, ils ont...
Ah, mais c'est clair qu'ici, sur Liège, c'est quand même une figure, carrière, hein, tu vois, pour le travail que t'as mené, t'es une figure, quand même, dans le beatmaking, ici, sur Liège. Ouais, et toi, il y a Ozora aussi, qui est une autre
figure. Ouais, bien sûr, Ozora Miyagi,
t'as cité DJ Miguan tout à l'heure.
Il y en a plein.
Il y en a beaucoup. T'es une figure aussi, et puis c'est vrai que cette réalité-là, c'est cool de la partager aussi, tu vois, ces difficultés-là. Parce que ça fait partie aussi du métier, et ça fait du métier et de ce côté ingrat aussi qu'il y a dedans.
Ouais, la désillusion.
Comme vous nous l'avez expliqué, c'est vraiment un métier où vous vous mettez au service de l'artiste. Tu parlais de traduction. Ils viennent avec on voudrait ceci, telle couleur, ça ressemble à de l'océan qu'on ressentit. Vous vous mettez au service pour traduire les émotions d'un artiste en musique. Toi, tu sacrifies ton temps pour que la prod, elle satisfasse l'artiste, pour qu'elle se soit vraiment top quali et tout ça. Et vous êtes néanmoins confronté à une réalité qui fait partie de ce truc, c'est que ça reste des humains, et des fois il y a
ouais, et toi tu parles, tu vois, c'est ça, parfois les plus gros flex qu'on a, c'est pas ceux-là qui vont nous faire manger.
Toi, c'est lesquels que tu préfères, toi, dans ton histoire, ce que
j'ai pas de... Le rap, c'est pas dans le rap que j'ai pu faire des flex, on va dire. Dans le rap, c'est... Enfin, si, ou alors c'est des flex dans le sens, je suis fier d'avoir travaillé avec ces gens-là et d'avoir fait ce qu'on a fait, mais c'est pas des gros noms, c'est pas des trucs qu'on fait plein de vues.
Mais dis-nous.
C'est pas... Bah, moi, je suis hyper fier du projet avec Les Anonymes, par exemple, qu'on a fait, de A à Z, et c'est pas un truc qui est... Parce que le groupe s'est séparé un peu après, parce qu'ils ont eu des... Ils s'étaient pas d'accord entre eux, machin, etc. Mais on est allé au bout d'un truc qui était super bien. Là, je suis hyper fier des projets sur lesquels je suis en train de travailler avec Marou. Avec Fuego, enfin, je suis hyper content de ça, dans le côté hip-hop, quoi, je veux dire.
Ouais.
Mais sinon, enfin, je veux dire, le plus gros flex financier que j'ai eu, c'est pas un flex, je veux pas, tu vois, on a des placements dans Netflix, dans les séries Netflix avec le groupe, tu vois, c'est cool, ça fait des sous, mais c'est un peu la honte, tu vois, au final, dans le sens, tu vois, on a un morceau dans Emily in Paris, par exemple, tu vois, Vous avez déjà regardé Emily in Paris?
Moi pas, mais je sais que c'est un succès populaire et que finalement. Tu vas pas oublier qu'on est quand même une petite ville ici, tu vois, et qu'il faut quand même te faire de grandes réalisations comme ça après.
Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas toujours les trucs les plus glamour.
C'est pas toi qui l'as composé pour ça, tu vois. C'est-à-dire qu'ils l'ont pris parce qu'ils ont kiffé la musique et qu'elle sans doute allait avec une
décennie. T'es fier dans l'accomplissement, mais dans le personnel, tu dis.
C'est pas les trucs, c'est ça que je veux dire. Parfois, les trucs les plus vraiment dont t'es les plus fier, c'est pas les trucs qui brillent le plus, où tu te dis c'est les plus.
J'ai un son dans The Wire, tu l'as pas entendu?
Allez.
Non, c'est pas vrai.
Là, ce sera un énorme.
Par exemple, tu vois, c'est vrai que par rapport à ce qu'il dit là, je suis content du projet de Sub-Zero. Ouais. Tu vois, qui est un très beau projet.
Grave.
C'est pas le projet qui a fait les streams de l'année. Mmh. Là, c'est pas dégueulasse non plus. Mais je suis grave fier du projet.
C'est un vrai projet, franchement.
Ouais, je suis grave fier des morceaux, je suis grave fier de tout, des feedbacks, etc. J'ai pris plaisir à faire ce projet là. Je suis grave fier des sons, des sons que j'ai pu placer pour. En fait, je suis fier de placer pour les artistes de ma ville, évidemment. Mais comment expliquer ça? En fait, j'aime bien quand le. Comment expliquer? J'aime bien les placements qui ont vraiment une histoire en mode plus personnel. Mmh. Bah, j'aime bien les placements industriels, il en faut.
Bien sûr.
Mais à vue.
Ce qui est important, je pense aussi, c'est ce que vous laissez derrière vous. Enfin, ces collaborations-là, vous les laissez à tout jamais. Enfin, ce truc fait partie de enfin, comme le titre l'expose, c'est un héritage en fait que vous laissez. Ouais, c'est partie de votre travail,
ça,
c'est un accomplissement.
Mais c'est l'histoire que tu racontes derrière. Des fois, c'est un peu chiant d'avoir je rectifie. C'est cool d'avoir un gros placement.
Ah non, mais je parle des placements justement comme ça, pour lesquels on a de l'affect, pour lesquels on est content.
Voilà.
On se dit le projet, c'est peut-être pas un succès commercial, mais franchement, les sessions sont bien passées, les idées qu'on a eues, elles étaient cool. La vibe avec l'artiste, c'est ça.
C'est juste les placements où t'as pas d'histoire qui vont avec.
Je veux dire, et ça, c'est un meilleur héritage que placer sur Netflix.
C'est ça. Je veux dire, évidemment, je suis fier qu'on soit là, parce que comme tu dis, c'est un succès populaire, c'est trop bien. Mais c'est vraiment la différence entre ce qui brille, ce qu'on voit et en fait ce qui fait vraiment toi, ce qui va te rendre heureux, le truc qui va te...
Allez, imagine, là vous êtes très très vieux et vous pouvez faire écouter un de vos sons, c'est quoi?
Qu'est-ce que je pourrais faire?
Ça peut être un ou deux. Hein.
C'est pas facile comme question.
Bah, vous allez puiser dedans les trucs un peu actuels. Je veux dire pas des trucs... Vous avez encore une longue marge devant vous, vous êtes jeune, vous êtes jeune et beau.
C'est trop gentil.
Bon, beau, jeune, je sais pas. Franchement, comme ça, c'est une vraie question. Comme ça, de tête, il y a qu'est-ce qui me vient.
Il faut qu'il soit déjà sorti ou ça peut être un truc en cours?
Ça peut être un truc en cours, ouais.
Bah ouais, moi, là, il y a un projet sur lequel je bosse depuis un an, là, avec Fuego. Il y a des trucs dedans où... Moi, j'ai eu l'impression d'aller plus loin que ce que j'avais déjà été. Je sais pas comment dire.
Ouais.
C'est clair, ça fait du sens. Et... Ça, je serais trop fier que ce soit visible, que ce soit dehors dans le monde. Quoi,
je sens que c'est quelque chose que tu pourras garder
une certaine fierté, conserver, c'est ça, peu importe les modes, peu importe les trucs, j'ai l'impression d'avoir été au bout vraiment de quelque chose, d'avoir terminé un truc, tu dis, bah là en fait, je suis au max de ce que je peux faire à ce moment-ci. Et ça,
moi,
c'est
je crois que c'est plus pour l'anecdote que le son en lui-même, c'est que il y avait une artiste albanaise qui venait de sortir un
titre. T'es en voyage avec toi, mec.
C'est bien de voyager. C'est bien, hein. Ceux qui vous disent qu'il faut pas voyager, les écoutez pas, hein. C'est des menteurs. Faut voyager, ça fait du bien à l'esprit, voyager tous.
Et donc on part avec toi, non?
Ouais, j'ai bossé avec une artiste albanaise et elle avait fait un titre que... sur le coup, celui-là, j'avais moyennement kiffé. J'étais pas plus ouf que ça, mais j'aimais bien la capella. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé si je pouvais avoir la capella pour faire un remix. En étant certain que j'allais pas avoir de suivi. Elle m'a dit, ouais, vas-y, tu sais quoi, tiens, mon compo va te l'envoyer, si ça. Le gars, il m'envoie un DM, il m'envoie un fichier WeTransfer avec le truc. Et j'ai fait un petit remix que j'ai donné à mon pote qui est DJ. Parce que je trouvais que ça avait plus de sens, vu qu'il était DJ, mon juste compositeur. Voilà, on a travaillé le truc ensemble, etc. C'est sorti, ça a été vraiment bien streamé. Et j'étais dans une petite... deux, trois fois, j'étais dans une soirée ou une chicha quelque part en Allemagne, mais vraiment au fin fond. Et j'entends le remix. Ah, là, j'avoue, j'étais vraiment content. Là, ça m'a fait plaisir de me dire que parfois, sur base d'une impulsion, quelque chose peut se créer. Et voilà, et puis de manière totalement anodine, tu sors avec tes potes, tu vas boire un verre et puis t'entends le truc. Moi, en fait, j'adore ça. J'adore les scénarios improbables. T'étais pas prévu à la fête, mais t'es là. tu vois.
Mais c'est vrai que c'est des souvenirs comme ça, de ouf, ça.
Ouais, moi, c'est des trucs que je kiffe. Ça m'est déjà arrivé une fois ou deux. J'ai eu aussi un autre morceau pour lequel j'ai eu un disque d'or. L'idée, elle m'est... Et pareil, c'est aussi en remix. L'idée, elle m'est venue dans la voiture. J'allais à Francfort. Le manager de l'artiste vient me chercher. Il me fait écouter un titre. Dans ma tête, j'imagine un peu le truc, etc. On arrive au studio, je prends mon ordi, je reçois la capella, je fais un petit remix et ci et ça. Et puis ouais, grâce à ça, j'ai eu un petit disque d'or.
Voilà, c'est joli, voilà.
Tu vois, c'est ça que j'aime bien. Moi, c'est les histoires. Moi, j'aime bien le truc de... J'aime pas quand c'est trop conventionnel. Moi, j'aime bien le truc qui est... C'est pas dessiné, c'était pas prévu au programme.
Un peu d'impro,
etc.
Là, c'est l'improvisation. Voilà.
Moi, j'aime bien ce que t'as dit.
Il y avait pas une chaise pour toi, mais t'as réussi à te faire une place.
C'est ça, j'aime bien ce que t'as dit. C'est qu'on n'était pas invité à la fête, on l'a fait quand même. Est-ce que ça, c'est pas un peu... Déjà, historiquement, le rap, il a fallu se faire sa place avec les coudes. Et alors, quand on vient de Liège, est-ce que vous pensez que c'est une difficulté supplémentaire ou par rapport à Bruxelles, qui pour le moment est le pôle d'attraction un peu de tout
le monde. Je pense que si tu le vois comme une difficulté, ouais, ça va être une difficulté. Tu vois, c'est...
Internet résout tout ça ou quoi?
Ouais,
carrément.
Alors d'aujourd'hui, t'as vu si lui, ils sont en bête de son. Comment je vais savoir qui vient de Liège?
En tout cas, vous le pensez comme ça, ouais.
Moi, j'ai l'impression que les limites, elles ont été quand même bien explosées avec Internet et les réseaux. Nous, à l'époque du groupe, à la plage, je veux dire, on a des articles, genre, tu sais, dans les Inrock, le Guardian, le Times, et on était à Liège. Et en fait, en Belgique, les gens, ils s'en battaient les couilles. Et puis, ils sont, en fait, c'est un groupe légeois, ils sont dans les trucs, et puis du coup, ils sont mis à Paris. Mais, donc ça montre qu'il n'y a pas de... Vous avez quand même bien ouvert des voies aussi, tu vois, à l'époque.
Ouais, d'ailleurs, moi, j'étais aussi totalement impromptu dans une friterie hier, et j'ai entendu la sonora. Yes.
En fait, c'est à toi qu'on va poser la question. Ouais. En fait, ouais, est-ce que toi, le fait de venir Starfam, venir de Liège, etc.
Nous, ça nous a mis une motivation.
Ouais.
Nous, ça nous a mis vraiment une grosse motivation, parce que déjà, à l'époque, c'était Bruxelles qui monopolisait, enfin, qui était vraiment le focus belge sur ce qui se passait. Ouais. Les Flamands, ça marchait déjà, mais c'était un peu dans d'autres styles et tout ça. Et donc, nous, clairement, on voulait...
Vous aviez faim.
On voulait montrer, on avait faim, quoi.
Ouais.
Et on est arrivé, on avait d'autres vibes qu'eux, on était connecté à d'autres choses qu'eux, on était plus connecté nous sur la scène parisienne, tu vois, la Clica, des trucs comme ça. Tandis qu'eux à Bruxelles, ils étaient forts dans un esprit très quartier, Scarbeck, tu vois, Poutamadre, CNN, c'est ce quartier-là. Ils étaient dans d'autres références, très connectés à New York, Zulu Nation, ils étaient dans des trucs comme ça. Et voilà, nous, on est arrivés, et je pense qu'on est arrivés au bon moment. Il y a une question aussi de chance, il faut être là au moment T.
Ouais, c'est sûr.
Y aller, quoi. Et voilà. Mais
un choix que tu fais.
Ça reste même maintenant, ça reste quand même une motive, quoi. Tu vois, il y a plein de monde qui se barrent, hein, qui commencent un peu à pop sur Liège, et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils se barrent à Bruxelles. Il y a quand même encore quelque chose qui fait que ça...
Après,
on n'a pas encore de quoi vraiment exploser à partir d'ici.
Ça manque... En fait, parce que ta question, c'était est-ce que c'était un handicap? Non. Mais après, c'est juste que ça manque d'infrastructure. Je pense qu'un mec qui habite, je sais pas, sur Le Mans, bah, fatalement, il doit venir sur Paris. Mais c'est pas le fait d'être un habitant de Le Mans qui l'handicap pour faire de la musique. C'est juste ça. Ça manque d'infrastructure. Voilà, c'est juste ça.
De diffusion?
Ouais.
De réseautage.
Dans le sens, on se suffit pas à nous. Enfin, personne ne se suffit à aucune ville ne se suffit à elle-même. Je pense pas que Bruxelles se suffit d'elle-même. Mais je trouve juste que, on va dire la connexion qu'ils ont avec le reste du monde est plus forte que nous. Mais en soi, après, artistiquement parlant, sans du tout cracher sur ce qu'ils font, il y a des artistes qui ont pop là-bas et probablement, d'une certaine manière, ils le méritent. Mais je pense que chez nous, on a grave des artistes qui sont capables de pop. Maintenant, une fois que... J'ai pas envie de dire de faire la victime, ouais, mais c'est parce qu'on n'a pas ça. Non, on va se débrouiller, c'est tout. Un mec qui a qu'une seule jambe, il se débrouille pour marcher quand même. Il se dit pas, je veux pas marcher parce que je n'ai qu'une seule jambe. Lui, il a deux jambes, il peut marcher. Je pense que nous, c'est un petit peu la même chose. On manque de certaines choses, mais on peut pallier à tout ça, à tous ces manques, par on se déplace.
Se rencontrer, tu vois. Vous parlez d'infrastructure, tu disais à juste titre le réseauter, être en réseau. Là, tu vois, l'initiative comme aujourd'hui, là, j'imagine que vous deux, vous étiez sans doute jamais rencontrés.
Non.
Tu vois, donc c'est cool parce qu'on entend qu'il y a des convergences, il y a aussi des trucs qu'on vous apprenez chacun l'un de l'autre. Je crois que c'est ça la clé, moi.
Et pour rebondir à ça, il y a ce truc de... Je trouve qu'avant, on avait trop ce truc de... On se connaît, mais on fait comme si on s'était pas vu, tu vois. Il y avait le syndrome du Ray Charles, tu vois. Ouais, non, je l'ai pas vu.
C'est très liégeois, ça, tu crois ou pas?
C'est très petite ville. Ça, c'est le syndrome des petites villes. Je pense que tu vas dans des petites villes en France, c'est la même chose.
J'imagine.
En Allemagne, des fois, ils me disent des choses. C'est exactement similaire à des choses que je pensais d'ici. Mais en fait, non, ça, c'est le syndrome des petites villes. C'est-à-dire que... parfois il y a, comment dire, c'est même pas réel, c'est dans la tête que ça se passe, t'as l'impression que c'est une petite ville, il y a une petite assiette. Mais non, en vrai, il y a de l'assiette, en fait, la taille de l'assiette, elle est en fonction de ta manière de penser. C'est-à-dire que moi, j'ai pas l'impression à aucun moment d'avoir poussé quelqu'un, pris la place de quelqu'un. J'ai juste créé, comme j'ai dit, il y avait pas de siège pour moi. J'ai pris un morceau de bois, ça, j'ai fabriqué ma chaise. J'ai pris la chaise de personne. Et tout le monde peut fabriquer sa chaise. Mais ça, encore une fois, c'est le syndrome des petites villes où tu penses que vas-y, ça, ça. Dans les grandes villes, ils réfléchissent pas comme ça. C'est grand, ils ont même pas. Enfin, pas partout, mais la plupart du temps, j'ai l'impression qu'ils ont même pas le temps de commencer à réfléchir comme ça. Quand je vois les artistes avec qui j'ai bossé, la gamberge, l'état d'esprit de certains artistes, je me dis, mais en fait, c'est ça. Tout ce qui change entre eux et nous, c'est juste l'état d'esprit. Le reste, c'est kiff-kiff. On est les mêmes. Parfois, il y en a même certains qui, je vois en studio, ils sont vachement moins efficaces que certains artistes avec qui je bosse de chez nous.
De chez nous.
C'est factuel. Mais bon, après, il y a toutes les structures et tout le tralala. Et voilà.
Mais du coup, c'est une question aussi de mentalité, de volonté. Voilà,
mais dans tout. Dans quoi, c'est pas une question de mentalité dans la vie dans
ouais,
tout.
C'est parce que tu parlais d'infrastructure, voilà. Mais du coup, ça doit venir des artistes, ça doit venir quoi? Des autorités, de quoi? Enfin, tu vois?
Ça doit venir tout court en vrai de vrai. C'est-à-dire
non,
que si tu veux que ça.
L'exposition, c'est une initiative aussi qui tente aussi de créer un.
Et qui a eu l'initiative
différents... bah, c'est une structure, c'est Nectar SBL. Voilà. Moi, je soutiens ça aussi.
Et moi, je soutiens de fou ce genre de démarche. Voilà. C'est-à-dire que quand il n'y a pas les choses, va les faire toi-même. Comment, si ça, il n'y a pas. Hey, débrouille-toi, frérot.
Mais ça, c'est la base du hip-hop carrément. Juste voilà.
Et je pense que si on commence à réfléchir comme ça pour plein de choses, on va être moins en mode. Être dans l'attente de « Ah mais si, il y avait ça, il y avait ça ». Aujourd'hui, avec Internet, le développement des choses, si on se met en équipe, un tel, il peut être... Toi, t'as un peu de budget, toi, t'as un peu de budget, toi, t'as un peu de jugeote, toi, t'as un peu de cervelle, toi, t'as un peu de ci, toi, t'as un peu de ça. Eh, venez, on organise nos propres trucs. Et c'est ça qui est super cool, au final. Et aujourd'hui, de toute façon, à l'heure d'Internet, tu peux facilement populariser quelque chose qui, à la base, a l'air tellement... D'ici, on va se dire « Ouais, c'est naze, c'est médiocre ». Mais en vrai, les gens, ils vont voir ça sur Internet, ils vont se dire « Oh, mais putain, c'est lourd, votre truc-là ». C'est bien, c'est ça tue, ça flingue. Tu vois, c'est ça que je dis, c'est une question de mental et d'état d'esprit. Et après, malheureusement, nous, on a tendance à vraiment, des fois, dans le discours que j'ai pu entendre, avoir une basse estime de nous-mêmes. Ce qui fait que, t'as vu, eux, ils vont organiser un événement, tu vas entendre, ah, c'est de la merde, c'est pété, c'est. Allez, va les soutenir, ou ferme-la. C'est aussi une manière de soutenir, plutôt que dire quelque chose de sortir quelque chose de négatif. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses.
Ça parle vrai ici, c'est cool. C'est très cool. En tout cas, si on veut vous retrouver, vous, sur les réseaux, qu'est-ce qu'on doit rechercher sur Instagram, sur d'autres biais?
Moi, c'est Oster4000, je suis un gros fainéant, c'est partout la même chose. Oster4000, Insta, TikTok, ce que tu veux.
Et là, t'as sorti des sons récemment, non? Si je me trompe.
Ouais, j'ai sorti un single qui s'appelle New Level il y a une semaine.
C'est
et
ça.
J'ai une collab qui s'appelle Guatemala qui est sortie cette nuit. Et ouais, c'est cool. Voilà,
Guatemala, en voyage avec Oster, je vous l'ai dit.
Nico, t'en riais, hein, justement, parce que tu.
Moi, je fais quoi? Je donne mon numéro de téléphone.
Mais non, mais explique peut-être un peu pour ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent.
Juste, moi, j'ai plus de réseaux sociaux. Parce que j'en avais marre, j'estimais que c'était pas mon travail. Parce que, en fait, ce qui m'intéresse là, c'est juste faire la musique. Je suis nul avec ça, je sais pas, c'est pas ma génération. Et je me sens vraiment, genre, ridicule quand j'essaie d'utiliser ce truc-là. J'ai l'impression d'avoir 70 ans. Donc, du coup, j'ai un peu arrêté parce que je l'utilisais mal et j'utilisais peu. Donc, c'est pas un sacrifice. Puis, il y a un truc aussi politique. Là, j'ai vu les interviews de Zuckerberg. J'ai fait, tu sais quoi, moi, je me casse.
Je participe pas à la mascarade.
Franchement,
et quoi, bouche à oreille alors maintenant
Ouais, bah en gros, je parle. Voilà, il y a des gens qui entendent parler, qui écoutent un truc que j'ai fait. Il y a un numéro qui circule, on m'appelle, on m'envoie un mail. Et ça, pour l'instant, ça a plutôt encore marché, donc c'est cool.
Ça filtre, hein, ouais. Il filtre carrément.
Je ne filtre pas, je laisse tout ouvert.
Il sait se vendre.
Il est disponible dans toutes les salles de sport de la région.
Balance le numéro.
Donc voilà, vous pouvez checker, ça va. Il y a des sorties qui arrivent aussi, ça c'est bien. Il y a des sorties qui arrivent de Marou et de Fuego.
Dans le prochain single, la semaine prochaine, le 28, pour Marou.
Yes, yes. Et là, elle a sorti un son là, avec un jeune gars à la prod qui s'appelle Mojo, qui est un gars, il a 19 ans, c'est un enfant carrément. Il est trop fort. Mm-hmm. Et donc, Mojo, lui, à mon avis, il a des réseaux.
Le prochain single, c'est Jeune Daiko.
Ouais, le prochain, c'est Daiko, c'est ça, qui est très très lourd aussi.
Il est l'heure de clôturer, malheureusement. Merci en tout cas, c'était super intéressant de discuter avec vous.
Merci à vous.
C'est bien pour une première, c'était très dynamique. On a survolé plein de choses sur Liège, sur enfin comme je disais, en voyager. On a parlé de politique, on a parlé aussi du métier en fait, du métier en lui-même.
Ah,
et ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas été trop technique. Parce que c'est des geeks.
Ah, le truc, c'est que je pense que les gars qui écoutent, qui sont beatmakers, ils savent exactement de quoi ça traite. Et je pense que c'est pas vraiment l'intérêt de savoir à quel volume je mets kick qui les intéresse. Mais c'est vraiment tout ce qui ne se voit pas. Et ça, c'est vraiment super, super important. Et je me dis que si moi, à une certaine époque, j'avais eu quelqu'un pour me dire ce genre de choses, il y a plein d'erreurs que j'aurais peut-être pas commises. Donc je me dis, j'essaye de leur dire à eux ce que j'aurais voulu qu'on me dise à moi. À une certaine époque.
Eh ben on donne rendez-vous à tout le monde et on vous donne rendez-vous à tous les deux aussi pour l'exposition du 28 février à l'ancienne bibliothèque des Chiroux, Héritage.
À fond.
Et nous, KR Régis, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre émission spéciale consacrée au DJing cette fois-ci.
Voilà.